Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le nouvel évêque du diocèse de Wambani-Touré vient de prendre officiellement ses fonctions ce dimanche. Il a été ordonné dans une messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo, représentant le pape. La cérémonie se passe devant plus d'un millier de fidèles venus de partout. Deux creuseurs artisanaux sont morts dans un glissement de terre dans la province du Maniema. Un autre grièvement blessé est admis dans une structure sanitaire de la place. L'ONG AGIREC appelle à l'implication urgente des autorités car ce drame est le 14e enregistré depuis le début de l'année en cours. Le coordonnateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, Ibrahima Koné, se déclare globalement satisfait du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Invité de Radio Okapi, il encourage le gouvernement congolais et ses partenaires à maintenir une surveillance accrue afin d'éviter toute résurgence du virus. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dominical. En Ituri, le nouvel évêque du diocèse de Wamba, Emmanuel Ngona Ngochi, prend officiellement ses fonctions ce dimanche. La cérémonie a lieu au stade de la paroisse Saint-Rosaire de Mambasa. La messe est dite par le cardinal Fridolin Ambongo, représentant le pape, devant plus d'un millier de fidèles venus de partout. Martial Kiza Biamungu explique les différentes étapes de cette prise de fonction canonique.
Selon le chancelier du diocèse de Bounia, la possession canonique d'un diocèse est un acte officiel par lequel un évêque nommé prend officiellement et spirituellement la tête de son diocèse. Ce moment marque le début effectif de son autorité pastorale sur l'église locale. D'après les codes de droit canonique, la prise de fonction comporte généralement plusieurs étapes. Il s'agit notamment de la présentation à pleine messe solennelle de la lettre de nomination du nouvel évêque par le pape au collège de consultaires de son diocèse. Il intervient ensuite un moment symbolique où le nouvel évêque s'assied sur son cathédrale, siège épiscopal appelé cathèdre, signe de son autorité d'enseigner et de gouverner, ce qui représente le début de ses fonctions. Cependant, avant cette étape, au cours de cette même messe solennelle, il va recevoir une ordination épiscopale du cardinal représentant du pape à cette cérémonie qui se déroule au stade de la paroisse Saint-Rosaire de Mambasa. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je le disais tout à l'heure en titre, deux creuseurs artisanaux membres d'une même famille sont morts dans un glissement des terres survenu sur les sites miniers de Moussoussa Sud dans les territoires de Kailo dans la province du Maniema. Un autre est grièvement blessé est admis dans une structure sanitaire de la place. Son état est jugé critique d'après les sources médicales. L'ONG Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité, AGIREC, appelle à l'implication urgente des autorités. Car ce drame est le 14e enregistré depuis le début de l'année en cours. Selon son coordonnateur, il est inadmissible que des familles continuent de perdre leurs proches dans ces conditions. Ramazani Alimasi Samuel, joint par Florence Kizalunga.
C'est le 14e cas en peu de temps de mort d'hommes par éboulement dans la province du Maniema. Les trois victimes appartiennent à une même famille et travaillaient dans un puits en exploitation artisanale de la Castérite au moment du drame. Les premières analyses attribuent cet incident à l'absence de suivi et de contrôle des agents du CEMAP sur le terrain. Cette situation récurrente dans la zone, ces manquements seraient aggravés par le non-paiement prolongé de ces agents, compromettant leur présence effective et leur encadrement des creuseurs. Cette négligence expose les travailleurs à des risques très élevés et entraîne régulièrement des pertes en vies humaines, pourtant évitables. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la recrudescence des incidents mortels dans le site minier du Maniema. Ces drames répétitifs résultent d'un manque criant de responsabilité, d'un laxisme administratif et de l'impunité persistante des agents chargés de l'encadrement. Les autorités provinciales doivent agir immédiatement pour mettre fin à cette situation dramatique.
Ce journal se poursuit dans la province du Nord Kivu où l'insécurité refait surface dans plusieurs entités du groupement des Bachois Gamadioué à l'ouest du territoire de Beni. Selon la société civile locale, au moins 10 cas de cambriolage accompagnés d'extorsions et de blessures par arme à feu ont été enregistrés ces derniers jours à Cantine et Mabalako, deux importants centres commerciaux de la zone. Cette structure citoyenne affirme que les auteurs seraient des hommes en uniforme et appellent les autorités a sanctionné, je cite, les brebis galeuses Tchétché Aliamini Moussoubao, président de la société civile des cantines à Loya, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
En dénonçant tout d'abord la déviation de la mission des patrouilles nocturnes qui se traduisent par des extorsions, des arrestations arbitraires, la société civile rappelle que les temps des sièges ne suspendent pas les droits fondamentaux et nous exigeons le retour des patrouilleurs à leur mission de protection et l'implication des leaders locaux dans un plan local de sécurité. La sanction du brebis galaise dans l'armée comme dans la police, à Cantine comme à Mabalako, et la transparence dans la gestion sécuritaire. Pour dire, à défaut des changements immédiats de manière de faire, des actions citoyennes seront entreprises et des poursuites judiciaires seront engagées devant l'auditorat militaire et les cours et tribunaux compétents, car nul n'est au-dessus de la loi.
Contacté à ce sujet, des sources sécuritaires à Cantine confirment avoir reçu les plaintes de la société civile et promettent de se prononcer bientôt sur la question. Au Kasaï central, certains parents n'accordent pas d'importance à l'acte de naissance. Cette situation est due notamment au manque d'informations sur l'utilité de ces documents, mais aussi à la négligence. Le service de la population à la division provinciale de l'intérieur rappelle que ce document est capital car il garantit les droits de l'enfant à l'identité. Autre détail dans ce reportage d'André Katinde Ngalamouloumé.
Dans la ville de Kananga, comme dans plusieurs territoires du Kasaï central, de nombreux enfants ne disposent pas d'acte de naissance. Au-delà de la carence des formulaires dans certaines zones de la province, les parents portent également une part de responsabilité. Certaines mères, une fois sorties de la maternité, oublient d'effectuer les démarches pour obtenir ces documents. C'est le cas de Rose Mbouyi, rencontrée au quartier industriel dans la commune de Kananga. J'ai trois enfants, un seul possède un acte de naissance. Avec les travaux ménagers, je ne trouve pas le temps d'aller les chercher. De nombreux parents sont dans la même situation que Rose. Ils ne cherchent ces documents que lorsque certaines démarches administratives l'exigent, notamment en cas de succession ou des voyages à l'étranger. Face à cette situation, Sébastien Kassaou, chef du bureau provincial chargé de la population à la division provinciale de l'intérieur, encourage les parents à faire enregistrer leurs enfants à l'état civil dans les 90 jours qui suivent la naissance. Passé ces délais, précise-t-il, l'obtention de l'acte de naissance nécessite un jugement supplétif impliquant des frais supplémentaires. Selon lui, l'acte de naissance protège l'identité de l'enfant. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
À Kisangani, un calme précaire règne au plateau médical après la tempête. Les habitants de la cellule Bloc Cabine dans la commune Makiso vivent dans la peur après les échauffourées avec les éléments de la police au sujet d'un éventuel déguerpissement. 48 heures après l'incident, ils ne savent toujours pas si les militaires vont revenir pour les faire partir de leur maison. Face à leurs inquiétudes, le président de l'Assemblée provinciale rassure, il n'en sera pas question et les appelle au calme. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Les personnes rencontrées dans cette cellule ont toujours à l'esprit le spectacle épouvant auquel elles ont fait face vendredi dernier. Les tirs et autres gaz lacrymogènes ont retenti pendant une bonne partie de la journée, créant une psychose dans le chef des habitants de ce coin, situé non loin de l'aéroport de Simisimi. Junior Yafunga, habitant du quartier, s'en souvient et raconte.
J'ai vécu vraiment dans les difficultés, on était vraiment menacés, il n'y avait pas moyen qu'on puisse continuer avec nos activités, toutes les activités sont suspendues, on était cachés quelque part. Pour avoir peur des policiers et des gens militaires.
Au-delà de la peur, c'est l'incompréhension qui domine. Benjamin Lomba, installé ici depuis 1992, dénonce une méthode brutale et un manque de respect du droit des propriétés par l'État.
Même s'il faut Kwakuto Shabak, est-ce que vous ne le préparez pas bien avant? C'est dans quel pays ça? Un pays, Mounakouya, tout Mounabrisqué, Batou, vous dormez et le lendemain, Mounakouya, pour Kuto Shabatou. kuba traumatisé, kuba brutalisé, kuba pika, c'est dans quel pays ça?
Face à la colère, le président de l'Assemblée provinciale les rassure que personne ne serait délogé et par conséquent, il invite tout le monde au calme et à vaquer à ses activités comme par le passé sans crainte. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika pendant ces temps, les agents de l'entreprise de fabrication de ciment GLC dans la cité de Kabimba en territoire de Kalemi sont en grève depuis mercredi dernier. Ils revendiquent notamment la majoration de leur salaire. Les responsables de GLC et la délégation syndicale des travailleurs sont en discussion à l'inspection du travail à Kalemi pour trouver un terrain d'entente. Le point avec Paulin Mounanga.
D'après des sources locales, les agents des GLC se sont décidés d'arrêter le travail après avoir entendu une rumeur faisant allusion à l'augmentation des salaires des agents expatriés de l'entreprise. Ils se sont mis à réclamer aussi pour eux et à dénoncer la stigmatisation salariale dont ils sont victimes. En outre, ils réclament la classification, donc la hiérarchisation des postes selon des critères objectifs. Deux agents s'expriment.
Nous, en tant que travailleurs, déclarons une augmentation salariale, classification des emplois, les engagements aussi, les soins médicaux, il n'y en a pas. Un étranger qui est appelé expatrié, dans l'usine, il touche un salaire qui est très élevé. Tant que chinois, le moins payé, c'est 5000 dollars, tandis qu'un congolais, c'est 50 dollars à 250 dollars. Mais voilà pourquoi la cause que nous sommes en train de déclarer une grève.
Nous avons compris que les Chinois n'ont pas cette volonté de régulariser toutes les situations conformément aux déclarations des travailleurs. On a décidé de déclencher une grève. C'est parce que les Chinois ne veulent pas respecter les engagements.
Nous n'avons pas pu joindre les responsables des GLC. Signalons que depuis novembre 2025, une série de grèves secoue l'entreprise GLC suite aux revendications des travailleurs. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Revenons encore une fois dans la province du Maniema où la problématique des inondations fluviales récurrentes dans la ville de Kindu est en voie de trouver des solutions. Pour y faire face, un nouveau projet y afférent a été lancé ce samedi. L'objectif visé est de trouver des réponses idoines à ces phénomènes qui se posent avec beaucoup d'acuité dans les trois communes Kasuku, Mikelenge et Alunguli. Ce projet de 60 jours est financé par l'ONG internationale Star Ready Star Network. Il s'agit d'un paquet multisectoriel qui vise 800 ménages. Le superviseur principal de l'ONG du mouvement international des droits de l'enfant, de la femme et de l'homme et leur promotion sociale, structure qui va exécuter ces projets, Hugues Katembo, nous en donne plus de détails. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Le projet vise à réduire l'impact des inondations en ville de Kindu, bien sûr en ayant trois approches, à savoir les activités d'anticipation, la réponse rapide et la stabilisation. Ces activités seront organisées en piliers. Nous avons le pilier WASH, nous avons le pilier CASH, nous avons le pilier médical, nous avons le pilier protection et bien sûr la coordination des activités. Vous savez, dans le temps passé, la disponibilité de l'aide était un peu consistante par rapport à aujourd'hui. Seulement 800 ménages dans Kindu et c'est dans ces trois communes, c'est relativement peu. C'est pourquoi nous devons nous rassurer que vraiment l'aide arrive au plus nécessité. C'est pourquoi nous allons nous baser sur les listes qui ont été élaborées avant, parce qu'il y a plusieurs évaluations qui ont été déjà faites. Dans le cadre des actions d'anticipation, il y a les plans de contingence, il y a les cartographies des susceptibilités d'inondation qui ont permis de mettre en place une base de données des bénéficiaires susceptibles du projet.
En Ituri, avant d'aller plus loin, les travaux communautaires d'assainissement, communément appelés Salongo et organisés chaque samedi, mobilisent de moins en moins la population, en particulier les jeunes. Ces derniers expliquent ces désengagements par le manque d'encadrement des services étatiques et l'insuffisance de matériel. De leur côté, les autorités municipales appellent les habitants à poursuivre cette action citoyenne, essentielle pour la salubrité de la ville et la promotion de la santé publique face à la mauvaise gestion des déchets. Reportage de Christelle Aïchi.
Autrefois, la participation au Salongo était presque une obligation citoyenne. Des jetons étaient distribués dans les ménages pour attester de la présence et des sanctions pouvaient être infligées aux absents. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. Les jeunes ne se mobilisent plus comme avant, déplore William Sivanziré, habitant du quartier Bakoko. Selon lui, l'absence d'encadrement régulier et de sensibilisation explique en grande partie ces relâchements au sein de la nouvelle génération.
Les salongos se déroulaient, il y a quelqu'un qui était habilité pour passer chaque vendredi soir. Et il partait avec les mégaphones, il parlait aux gens que les salongos se tiendra demain, soyez là. Ils vont distribuer les jetons, mais actuellement, il n'y en a pas.
D'autres habitants évoquent également le manque de matériel nécessaire pour travailler efficacement. Ils lancent un appel aux autorités et aux partenaires pour un appui en équipement afin de redynamiser cette activité essentielle.
Là, c'est juste une affaire de volonté. Ils nous fassent des matériels et on saura comment sensibiliser nos gens.
Rappelons que les salongos contribuent à lutter contre l'insalubrité, à préserver la santé de la population et à renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés locales. Bounia, Christelle Aïchi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les combats ont repris dimanche 26 avril dans la ville de Kidal, dans le nord du Mali, entre la rébellion Touareg, appuyée par les djihadistes d'Al-Qaïda, et l'armée malienne, a-t-on appris auprès de la rébellion Touareg et d'un élu local. L'armée est soutenue par les mercenaires russes d'AfricaCorps. La veille, le groupe séparatiste FLA et le groupe djihadiste avaient lancé une vague d'attaques dans de nombreuses villes revendiquant le contrôle de Kidal.
L'invité.
Le coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite IMEP, Ibrahima Kone, se déclare globalement satisfait du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Invité de Radio Capi, il encourage le gouvernement congolais et ses partenaires à maintenir une surveillance accrue afin d'éviter toute résurgence du virus. Ce médecin spécialiste salue également l'engagement des bailleurs de fonds, notamment l'UNICEF, pour leur implication dans la mobilisation des communautés noté avant et pendant cette activité vaccinale en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Haut-Katanga. Ibrahima Kone s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour docteur Ibrahima Kone.
Bonjour.
Quelle a été la particularité de la campagne de vaccination contre la polio cette année dans la province du Haut-Katanga?
Ce qui est important actuellement, donc un aspect particulier de cette campagne, c'était de mettre l'accent sur la recherche de ces communautés qui ne sont en général pas atteintes par la vaccination. Que ce soit la vaccination supplémentaire, comme les campagnes que l'on conduit, ou la vaccination systématique, ou la dite vaccination de routine. La deuxième, c'est de nous assurer également que à l'occasion de cette campagne, nous passions des messages. Vous savez que un des volets importants, des piliers importants de l'éradication de la polio, c'est ce qu'on appelle la surveillance des paralysies face aiguës. Et donc, à l'occasion de ces campagnes, étant donné que nous avons l'opportunité de visiter tous les minages, nous passons le message qui est celui de est-ce qu'il y a des cas de paralysie? Alors nous avons des messages très simples à l'endroit des communautés qui ne sont pas du tout sophistiqués, de manière à être bien compris. Et ça nous permet, nous, de collecter un grand nombre d'échantillons de sel et les analyser au laboratoire pour voir si nous avons une circulation virale ou pas. Nous assurer également que, au cours de ces campagnes, nous contribuons à augmenter la couverture de vaccination dans le cadre de la routine, le système régulier. Donc vous voyez que cette campagne a plusieurs effets sur plusieurs dimensions de la vaccination.
Vous avez visé combien d'enfants et combien ont été atteints tout au long de cette campagne?
La cible était autour de 2 300 000 enfants pour le Haut-Katanga et nous avons dépassé la cible. Nous avons une couverture vaccinale approximée à 113%. Il faut comprendre l'écosystème de cette province du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga est une province minière, est une province relativement riche. Elle a un écosystème économique qui attire de la population. En raison des questions sécuritaires dans la partie nord-est du pays, nous avons également, nous sommes soumis à d'importants flux de population qui arrivent qui transite par le Tanganyika, si bien que d'une campagne à l'autre, nous avons une augmentation assez significative de la population à vacciner.
Quelles ont été les grandes difficultés dans cette partie du pays?
Oui, les difficultés, c'est ce que nous gérons au quotidien. Bon, nous avons connu quelques retards au niveau de la distribution des intrants, mais rien de significatif. C'est toujours un défi de transporter d'importantes quantités de matériel de Kinshasa à n'importe quelle région du pays, parce que vous le savez, l'essentiel du transport est aérien et l'offre de transport aérien ici est très limitée, si bien que il y a des goulots d'étranglement au niveau de la distribution des intrants, d'accord. Avec ça, on a quelques problèmes au niveau des refus, on a quelques poches de population effectivement qui sont réticentes à la vaccination, mais nous avons quand même pas mal d'expérience en la matière. Nos collègues de l'UNICEF sont de grands connaisseurs de cette problématique, ils ont développé une expertise à travers le monde. Parce que pour les questions de refus, c'est l'UNICEF qui a le leadership. Elle a une expérience, cette organisation, avérée. Si bien que la quasi-totalité des refus auxquels nous avons eu à faire face à l'occasion de cette campagne ont été résolus.
Si on vous demandait d'adresser un petit message à la communauté et aux autorités, à marge de cette campagne contre la polio, que diriez-vous?
Le Haut-Katanga a une équipe technique d'abord de très haut niveau. Le MCA est très compétent. L'assistance technique a une relation vraiment privilégiée. Le message, c'est de les féliciter et de continuer à poursuivre les efforts en vue de l'éradication. Parce que les efforts ne sont pas consentis seulement par les partenaires, les assistants techniques. Les efforts sont consentis en réalité par le pays, par les provinces. Ce sont eux qu'il faut féliciter. Le deuxième message, c'est que le combat n'est pas fini. Il faut qu'on s'assure que tous les enfants vont être vaccinés, de manière à ce qu'on crée une barrière qui empêche le virus de se transmettre de l'homme à l'homme. Donc, pour les communautés, le message est simple. Nous n'avons pas fini. Vous allez nous revoir à nouveau. Ne vous inquiétez pas, le vaccin est sûr. Pas de discussion là-dessus. C'est un vaccin sûr qui a été prouvé, qui a été utilisé dans le monde entier. Alors le message, c'est faites-nous confiance. Faites confiance à vos autorités. Et nous sommes en voie de finir le travail.
Docteur Ibrahima Kone, nous vous disons merci.
Non, prie.
C'était donc notre invité Ibrahima Kone qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. C'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Jean-Gandou Kabongo et mis en onde par Pierre Giacino. À ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.